VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Burundi, le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, gravement blessé dans une tentative d'assassinat lundi soir, est maintenant autorisé par la justice burundaise à partir se faire soigner à l'étranger, malgré une procédure ouverte contre lui depuis 2014 pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sa famille à l'AFP. L'état de santé de M. Mbonimpa, qui a reçu une balle au visage, est stable, mais il ne parvient toujours pas à parler et doit s'exprimer par geste, a souligné sa fille Amandine Nasagarare. Halte à la violence dans les stades de la RDC. Tel est l'engagement pris par les acteurs du football congolais ayant participé récemment à un séminaire à ce sujet. En 2014, il y a eu 15 morts et de nombreux blessés dans un stade de Kinshasa lors d'un match entre l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Et les recommandations issues de ce séminaire vont servir de feuille de route pour l'organisation de tous les championnats de foot du pays. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pendant 48 heures, autorités politiques, responsables de la sécurité, dirigeants des instances du football, des clubs, encadreurs techniques, journalistes, supporters, bref, tous les acteurs du football ont passé au peigne fin les causes de la violence dans les stades de la RDC. Les recommandations qui en ont découlé ont été couchées dans un document qui va guider l'organisation des championnats à tous les niveaux à partir du mois prochain. Le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association revient ici sur quelques-unes d'entre elles.
Construire des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux tels que fixés par la FIFA et la CAF en matière de sûreté et de sécurité en entendant réfectionner ceux existants en tenant les normes précitées. Organiser des procès à flagrance à caractère dissuasif et éducatif en cas de violence grave. Établir les dispositifs aux abords et dans les stades pour filtrer les entrées. Interdire formellement l'usage de gaz lacrymogènes pour disperser les foules au stade et établir l'ordre.
Ces conclusions doivent s'appliquer dès maintenant, veut exprimer par Frédéric Kitenge Kikumba et Patrick Banisha, directeur sportif du tout-puissant Mazembe et secrétaire général de l'ASV Club.
Nous tenons absolument à ce que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés trouvent leur début d'application dans les jours qui viennent parce que nous devons commencer le championnat national. Je suis persuadé que si tout le monde s'y met, nous arriverons à organiser un championnat exemplaire.
Nous estimons que pendant les 48 heures, nous avons fait un travail très bien pour le développement de notre football, pourvu que cela ne reste pas lettre morte dans les tiroirs des décideurs.
Également pointé du doigt les insuffisances de certains journalistes sportifs qui n'aident pas à véhiculer un message objectif sur le football. Pierre-Célestin Kabalamouanambouy est le président de l'Association des journalistes sportifs congolais.
Il y a beaucoup de jeunes confrères qui ont fait leur entrée dans le métier. Ils ont le savoir journalistique, mais ils arrivent sur un terrain où ils trouvent la nécessité de notre savoir. C'est le savoir sportif fondamental.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En RCA, près d'un quart des électeurs potentiels ont été enregistrés à 2 mois de la première échéance électorale, à savoir le référendum du 4 octobre sur la Constitution, qui sera suivi le 18 du même mois de la présidentielle et des législatives. Le chef de la mission des Nations Unies à Bangui a donné en personne à l'ONU des détails sur cette opération d'inscription chez Romain Dorsil.
Lors d'une présentation mercredi devant le Conseil de sécurité, Babacar Gaye a déclaré que près de 2 millions de Centrafricains éligibles se sont fait inscrire sur les registres électoraux, la plupart dans la capitale Bangui. Le processus est en train d'être lancé, dit-il, dans le reste de la RCA. Le diplomate onusien a mis l'emphase sur l'inscription des quelques 400 000 citoyens devenus réfugiés depuis le début de la crise en 2013. Entre 75 et 85 % d'entre eux sont des musulmans, signale Babacar Gaye. Leur participation au processus est cruciale pour la réconciliation prônée par les dirigeants centrafricains et encouragée par la communauté internationale. La Cour constitutionnelle de la RCA a d'ailleurs stipulé que les réfugiés doivent avoir la possibilité de voter.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La guerre contre Boko Haram au Cameroun, les autorités disent avoir arrêté 4 militants présumés de la secte islamiste nigériane qui se faisaient passer pour des réfugiés et projetaient d'attaquer un camp de personnes déplacées proche de la frontière du Nigeria. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Les suspects transportaient des explosifs dans leur bagage et ont été interceptés au camp de Minao, dans l'extrême nord du Cameroun, a révélé Issa Tchiroma, porte-parole du gouvernement camerounais. L'opération a également permis de récupérer une arme AK-47, des munitions ainsi que deux motos, a précisé le porte-parole. Le camp de Minao abrite 44 000 Nigérians et enfouit l'insurrection de Boko Haram. Les autorités camerounaises avaient précédemment fait savoir que les terroristes se déguisaient pour attaquer le pays. Le mois dernier, trois kamikazes déguisés en marchands et mendiants ont fait exploser leurs charges, tuant des dizaines de personnes à Maroua, capitale de la région camerounaise de l'extrême nord.
Ici aux États-Unis, la seconde édition du sommet Yali des jeunes leaders africains s'est terminée hier soir à Washington. Pour avoir une idée du chemin parcouru un an après la première rencontre washingtonienne des jeunes visiteurs africains à l'initiative du président américain Barack Obama, Nicolas Pineau a tendu son micro à des participants de l'édition de 2014.
La visite de la capitale Washington, la rencontre avec Barack Obama ou encore les cours dans les universités américaines, les souvenirs sont nombreux pour ces jeunes leaders africains de l'édition 2014. Un an après, la motivation est la même, changer l'Afrique et être à la pointe d'un continent qui bouge. Vital Sounouvou est entrepreneur béninois. Il est le fondateur du site Exportunity qu'il décrit comme le eBay du commerce de gros.
Vraiment, ce que Yali nous a apporté, c'est vraiment la crédibilité nécessaire pour vraiment aller là où nous voulions aller. Nous avons belle expérience avec le Yali pour apprendre, comprendre comment sur le marché international ça marche et quels étaient les ajustements que nous devions faire. Et l'année qui s'est écoulée nous a permis de faire ces ajustements-là pour lancer de façon plus solide.
À Libreville, Willy Conrad Aseko Alogo lui veut retenir les échanges d'idées avec les autres jeunes du continent. Une leçon d'humilité pour le secrétaire général de l'Association des jeunes entrepreneurs gabonais.
Je tiens à préciser que le programme Yali, c'est un programme qui rend déjà très très humble. Lorsqu'on est jeune et qu'on est très actif au niveau de son pays, on pense parfois qu'on vit en marge de ce qui se passe dans d'autres pays africains. On pense que les jeunes là-bas, ils sont au sol, dans d'autres pays, ils sont au soleil. On pense que dans d'autres pays, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est jeune entrepreneur gabonais, on pense que peut-être au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas les problèmes liés aux attributions des marchés, à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial, etc., etc., etc. Et lorsqu'on rencontre 499 autres jeunes qui en fait vivent les mêmes problèmes, on en revient à minimiser son propre parcours et ça donne envie de faire encore plus qu'avant.
Cet ancien basketteur gabonais loue aussi le dialogue franc, ouvert et régulier avec les autorités américaines au Gabon. Washington lui a ainsi permis de participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le mois dernier. Alors certains critiquent le programme Yali, estimant que Washington essaie d'influencer les futurs décideurs africains, voire d'imposer sa vision libérale de l'économie. Faux, répond le Sénégalais Sobel Aziz Ngom, directeur de Social Change Factory.
Beaucoup de gens vont dire ce qu'ils veulent un petit peu sur le programme et sur l'idée derrière le programme, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. L'idée pour nous, ce n'était pas de nous formater selon la culture ou la vision américaine. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai retenu de ce programme, moi, personnellement. Parce que voilà, bon, pour moi, les États-Unis, voilà, comme pour beaucoup de gens, il y a le meilleur comme le pire. Donc, ce n'est pas forcément une inspiration. L'idée, ce n'est pas de ressembler aux États-Unis. C'est de prendre ce qui existe de bien, de l'adapter si c'est possible, ou sinon tout simplement de créer des choses qui sont nouvelles et qui nous appartiennent, qui correspondent à nous-mêmes et à notre état d'esprit.
Le nombre de jeunes participants au Yali sera doublé l'année prochaine et passera de 500 à 1 millier en 2016.
Aucun nouveau débris d'avion découvert sur l'île de la Réunion n'est en possession des enquêteurs français, a déclaré aujourd'hui une source judiciaire à l'AFP, alors que les autorités malaisiennes annoncent que des coussins de siège et des hublots ont été retrouvés. Le fragment d'aile d'avion, un flaperon retrouvé auparavant, est pour sa part en cours d'examen en France. Rachid Bouda.
Quelques heures d'analyse ont suffi aux experts réunis près de Toulouse pour confirmer que le flaperon charrié par la mer a dérivé sur plusieurs milliers de kilomètres à partir de l'endroit de l'océan Indien où l'avion s'est abîmé, affirme le premier ministre malaisien Najib Razak à Kuala Lumpur. Il y a de fortes chances que la pièce provienne d'un Boeing en raison de ses caractéristiques techniques communiquées par les représentants de la compagnie aérienne, a fait savoir de son côté le procureur adjoint de Paris. Selon lui, les fortes présomptions doivent être confirmées par les analyses complémentaires qui débuteront ce jeudi. Le vol MH370 a mystérieusement disparu au large de l'océan Indien le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.